Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Lubumbashi. Bienvenue, voici les titres de ce journal. De nombreuses maisons et plusieurs étendues des champs touchées par des inondations dans le territoire de Malembankoulou, en province du Haut-Lomami. La société civile locale redoute la famine dans les mois à venir. L'administrateur du territoire sollicite l'intervention du gouvernement en faveur des sinistrés exposés à des intempéries et autres maladies. Un mort, des blessés et une maison endommagée. Dégâts causés par une bombe tombée dans un quartier hier lundi à Mouesso, au Nord Kivu. La situation reste tendue dans cette région de Masisi après d'intenses combats opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux et les FARDC. L'invité de ce journal est l'un des réalisateurs du film Patrice Lumumba, Le retour d'un héros. Quentin Noir Falis parle justement de ce film qui raconte les célébrations hautement politiques du retour de la dépouille de Lumumba, mais cherche surtout à savoir ce qu'il reste de Patrice Emery Lumumba au Congo et en Belgique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le territoire de Malembankoulou dans les Haut-Lomami fait face à des inondations. De nombreuses maisons sont touchées. À cela s'ajoutent plusieurs étendues de champs. Pendant que la société civile locale redoute la famine dans les mois à venir, l'administrateur du territoire sollicite l'intervention du gouvernement en faveur des sinistrés qui sont exposés à des intempéries et autres maladies. Des détails avec Jean Gandou.
Les inondations touchent presque tous les villages de ce territoire de la province du Haut-Lomami. Ceci est la conséquence des fortes pluies qui s'abattent ce dernier temps. L'eau du fleuve a quitté son lit et se répand à travers presque tous les villages. Les occupants des maisons inondées, bien sur la tête, sont en errance, cherchant où aller, car même les villages environnants connaissent le même spectacle. Les personnes les plus touchées sont celles qui habitent les longs du fleuve. Et ces inondations ont occasionné l'écroulement des maisons, surtout celles construites en briques adobe, rapporte la société civile. L'administrateur du territoire de Malembankoulou indique pour sa part que les riverains du fleuve étaient pourtant sensibilisés pour quitter les lieux, mais personne ne s'est exécuté. Actuellement, rapporte Joël Kayembe, la situation est préoccupante.
Pour cette fois-ci, je vois que ça sera très dangereux. Je lance un appel vibrant au gouvernement national et provincial pour qu'ils nous viennent rapidement en aide parce que ça sera trop grave. Surtout qu'ici, c'est le siège de choléra. Il pleut abondamment. Il y a d'abord beaucoup de maisons qui sont écroulées à partir de l'eau des pluies et l'inondation.
Pour l'autorité territoriale, pour le moment, il est difficile d'avancer un quelconque bilan. Ses services sont à pied d'œuvre pour récolter les données. Et la société civile plaide pour qu'une assistance soit envoyée aux sinistrés, notamment les bâches, pour qu'ils s'abritent en cette période de fortes pluies. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Un mort, des blessés et une maison endommagée, tels sont les dégâts causés par une bombe qui est tombée dans un quartier hier lundi à Mouesso, au Nord Kivu. La situation reste tendue dans cette région de Masisi après d'intenses combats toute la journée d'hier lundi opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux et les FARDC. Une accalmie relative est notée également sous l'axe Kibumba après des combats d'hier à Kanyamaoro dans le groupement de Bouvumba à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. La société civile locale affirme que la situation n'est pas rassurante dans cette zone. Sifa Maguru pour plus de détails.
Plusieurs sources affirment qu'une psychose a gagné la population dans l'agglomération de Mouesso toute la soirée d'hier à cause de l'intensité des affrontements non loin de la cité, mais aussi cette bombe qui est tombée sur une habitation causant la mort d'un jeune homme de 15 ans. Deux femmes ont été blessées grièvement et leur maison détruite. Un calme précaire s'observe dans la mi-journée de ce mardi dans cette région, mais les habitants craignent que la situation puisse changer à tout moment. Par ailleurs, sur l'axe Kibumba, nos sources indique que les lignes n'ont pas bougé hier à l'issue des combats à l'armée lourde entre les rebelles et les groupes armés locaux et les FARDC. Les deux parties continuent à renforcer leur position, s'inquiètent nos sources. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
En Ituri, 17 miliciens environ ont été tués et 4 autres blessés pendant les affrontements depuis le week-end dernier entre les groupes armés Zaïre et Codeco. Des combats se déroulent vers la localité minière de Nyassi, à environ 100 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Des sources de sécurité signalent également le déplacement de la population dans la région. Les leaders communautaires locaux demandent au gouvernement de traquer ces deux groupes armés qui renforcent leur position dans la zone des combats. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Des violents combats opposés depuis vendredi dernier, les deux milices dans la localité minière de Niali, dans la chefferie de Mambisa, dans les territoires de Djougou. Les bilans provisoires avancés par des sources concordantes et des 15 morts du côté de Kodeko et des assaillants des Zaïre ont été tués et 4 autres blessés. De nombreux habitants ont fui dans cette entité minière et d'autres villages proches ajoutent les mêmes sources. En représailles, les miliciens de la Kodeko se sont mobilisés depuis dimanche pour attaquer les camps ennemis. Ils sont venus de plusieurs bastions dont Damas et Nguo. Ils ont assiégé les localités sous contrôle des Zaïre, Niassi, Lodjo, Akwe, Mbidjo, dans les secteurs de Banyarikilo et Dego dans Baïmanor, ce qui crée une psychose. Certains habitants quittent déjà la zone. Ils plaident pour l'intervention de l'armée en vue de maîtriser ces deux milices. Selon des sources locales, la tension monte et une méfiance s'observe entre les deux parties depuis la publication des rapports de l'ONU qui établit un lien entre le groupe armé Zaïre et les M23, allégations rejetées par les leaders de la milice Zaïre. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et toujours en Ituri, plus d'un millier d'élèves des écoles primaires et secondaires affectés par la guerre étudient dans des conditions difficiles dans la localité de Jina, dans les territoires de Djougou. Certains élèves dont les bâtiments ont été incendiés par des groupes armés étudient à ciel ouvert et sans banc ou pupitre. D'autres enfants ne vont pas à l'école car délocalisés dans des endroits sécurisés. Les autorités scolaires lancent un cri d'alarme au gouvernement pour la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires dans cette entité. Des détails avec Ezekiel Mousalia.
Une dizaine d'écoles de la localité de Jina et d'autres entités du territoire de Djougou fonctionnent difficilement pour assurer la scolarisation des enfants. Il s'agit par exemple de l'institut Jina, Epe Jina, qui héberge en son sein deux autres écoles, Epe Lona ainsi que Buanasula, qui ont été détruits par les groupes armés. Face à la pléthore des élèves, certains enfants étudient dans des hangars assis sur des troncs d'arbres et des pierres. Ils sont contraints d'interrompre les cours pendant la saison pluvieuse. Certains enseignants indiquent que plus d'un millier d'élèves étudient dans des conditions difficiles, sans uniforme, fournitures scolaires et matériel didactique, et sans compter des centaines d'autres enfants qui ont fui des atrocités des groupes armés. Maki Jacob, enseignant de l'Institut Jina.
Nous avons hébergé ici 10 écoles. Les élèves n'ont même pas d'uniforme pour écrire comme d'écritoire. C'est grave vraiment. Alors, nous étions en train de plaider s'il y aurait possibilité qu'on aide quand même notre école primaire jusqu'à présent. Pas encore de bâtiment. Ils sont en train de fonctionner sous la bâche. C'est grave quoi.
Les chefs d'établissement dans cette entité disent avoir fait des plaidoyers plusieurs fois à leur hiérarchie sans aucune suite. Ils lancent un SOS aux autorités provinciales ainsi qu'aux partenaires dont l'UNICEF qui appuie l'éducation au pays de leur venir en aide. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Et puis le commandant de la 22e brigade de réaction rapide FRDC dans la province du Tanganyika appelle les Wazalendo et d'autres groupes armés qui détiennent illégalement des armes à feu à les remettre. C'était hier lundi au cours de l'inspection du cachot de la 22e brigade à Kalemie. À cet effet, le général Fabien Dunia Kashindi s'est adressé au groupe de Wazalendo dénommé Kiliba et à d'autres miliciens qui sont détenus au cachot. Les détails avec Paulin Munanga.
Le général Fabien Dunia Kashindi a annoncé aux détenus que l'armée ne reconnaît aucun groupe d'autodéfense dans la province du Tanganyika. Et il lance un appel à tous les groupes armés de remettre les armes et adhérer au programme de désarmement et démobilisation. Wazalendo ou pas, d'abord vous êtes des faux Wazalendo. Les vrais se battent au Nord Kivu. Mai Mai ou Balalarondo se promener avec les armes ici dans la province du Tanganyika, ça ne se fera pas. Là, vous devez même appeler les autres pour qu'ils viennent remettre les armes. Toutes les armes à feu qui sont en brousse doivent retourner au magasin de l'armée. Ici dans le Tanganyika, il n'y a que l'armée et la police qui sont reconnus comme des services détenant des armes à feu. Nous organisons l'opération interdisant la détention des armes à feu dans les mains des groupes armés. Pour rappel, les FARDC ont arrêté dernièrement des hommes armés dans les territoires de Kalemie. Mais certaines sources ont indiqué que les hommes arrêtés sont des patriotes qui sécurisaient l'axe Kalemie-Kabimba et ont mis la main sur des coupeurs de route. Cependant, la 22e brigade de réaction rapide de FRDC a reconnu avoir arrêté des bandits détenant des armes à feu illégalement sur l'axe Kabimba et non des patriotes. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, braquage avec usage d'armes hier lundi à la société Anui Congo d'investissement minier Sakim. Près de 3500 carats de diamants ont été emportés par deux éléments de la 21e région militaire commis à la garde des installations de cette société minière qui exploite le diamant à Boya dans les territoires de Miabi. Plusieurs autres éléments de la 21e région militaire ont été déployés à partir de Mbujimayi pour rechercher les fugitifs. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les premières informations fournies à l'administrateur du territoire de Miabi par les autorités de la SACIM indiquent que les faits se sont produits ce lundi après l'exploitation des diamants effectués au niveau de la première usine de production de la SACIM. La même source précise qu'un élément FRDC qui escortait un agent de sécurité a braqué sur lui à mi-chemin lorsqu'il quittait cette usine de production avec le coffre-fort contenant le diamant qu'il a arraché avant de se volatiliser dans la nature. Pendant ce temps, un autre élément FRDC, complice de cette sale besogne, a tiré plusieurs coups de feu en l'air, créant la panique dans les installations de la SACIM avant de prendre le large et rejoindre celui qui a récupéré le coffre-fort de diamants. Le coût de ces pierres précieuses n'est pas connu. Les responsables de la SACIM sont restés injoignables. L'administrateur des territoires de Miabi dit avoir déployé les services de sécurité pour mener les enquêtes. Plusieurs éléments de la 21e région militaire ont eux aussi été dépêchés ce même lundi dans la région pour rechercher les fugitifs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Vous le savez déjà, lors de son investiture le 20 janvier dernier, le président Félix Tshisekedi a salué les rôles joués par ses différents adversaires lors de l'élection présidentielle de décembre 2023. Il a par ailleurs indiqué que l'opposition politique aura sa place dans sa gouvernance et il a assuré son implication dans la désignation du porte-parole de l'opposition. D'après Jacquemain Chabani, conseiller principal du chef de l'État en charge des questions politiques et électorales, il est bien clair que l'opposition aura sa place et continuera à faire l'analyse de la vie politique du pays. On l'écoute au micro d'Aigu Maté.
Et je sais que la réponse ne doit pas nécessairement être donnée dans les jours qui suivent. Je reste convaincu que l'opposition en tant qu'organisation politique a des structures de réflexion et de décision. Ils vont continuer à analyser la vie politique congolaise. Dans les semaines qui viennent ici, les nouvelles institutions vont se mettre en place. Les uns et les autres vont le constater et vont prendre des dispositions par rapport à cela pour qu'ensemble nous arrivions à des conclusions bénéfiques, utiles pour notre pays et pour notre nation, chacun dans la posture qu'il occupe.
De son côté, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, estime qu'il n'y a pas de main tendue et on ne peut même pas parler d'institutions politiques dans ce pays à l'issue des élections du 20 décembre dernier. On l'écoute aussi au micro d'Aigu Maté.
Il n'y a aucune main tendue, à quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a gagné ses élections dans leur compréhension et qui n'a besoin de personne, qui appelle plutôt ce qu'il appelle l'opposition, je ne sais pas laquelle, parce que cette opposition-là, bon, je voudrais bien qu'au moins il s'adresse encore ici à l'opposition qui était à ces élections. Et nous qui avions dénoncé le processus dès le début et qui continuons à faire constater que les révélations de cette organisation chaotique de ces élections ne permettent même pas qu'on parle des institutions légitimes et légales. Hein? On ne peut parler aujourd'hui, si on veut vraiment parler de ces élections, alors nous parlons de toute la situation politique dans laquelle, surtout le chaos dans lequel Félix a plongé le pays, et que c'est dans la cohésion que nous ne sentons ni à ce qu'ils appelaient majorité, on ne sent plus rien. Et il veut diriger comme un homme seul et qui commence à appeler les autres, venez, moi j'ai la solution, et ainsi de suite.
Jacquemain Chabani et Ferdinand Kambere intervenaient hier lundi dans l'émission Dialogue entre Congolais. En bref, à Kinshasa, plus de 60 présumés criminels, communément appelés Kuluna, ont été transférés hier lundi à la prison militaire de Ndolo. Ces derniers ont été arrêtés par la police lors de l'opération du bouclage menée dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier dans plusieurs quartiers de la capitale. Selon le commissaire provincial de la police, ces gangsters sont poursuivis notamment pour détention illégale d'armes, meurtres, cambriolages et kidnapping. Le commandant de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimba-Limba, affirme qu'une audience sera organisée jeudi prochain sur cette affaire. Il appelle par ailleurs toute personne victime de ces actes qu'il qualifie de terrorisme urbain à se présenter à la police pour se faire identifier afin d'aider la police à bien faire son travail. Des sources policières indiquent que 50 autres présumés criminels arrêtés seront transférés dans la même prison carcérale ce mardi.
Actualité internationale.
Libéria, le nouveau président Joseph Boakai a prêté serment hier lundi à Monrovia après avoir remporté de justesse les élections en novembre dernier. Lors de sa cérémonie d'investiture, Joseph Boakai a promis de sauver la plus ancienne République d'Afrique de ses difficultés économiques en ayant comme priorité l'amélioration du respect de l'état de droit, la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'espoir perdu des citoyens. Au Soudan, selon un rapport accablant de l'ONU, l'avancée des forces de soutien rapide du général Hemeti au Darfour l'année dernière s'est accompagnée des massacres à caractère ethnique, notamment dans la capitale du Darfour Ouest, El Geneina, où les violences pourraient s'apparenter, selon ses experts, à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
L'invité.
Notre invité est Quentin Noirfalis, c'est l'un des réalisateurs du film Patrice Lumumba, Le retour d'un héros. Ce film raconte les célébrations hautement politiques du retour de la dépouille de Lumumba, mais cherche surtout à savoir ce qu'il reste de Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo et en Belgique. Ce film sera projeté demain mercredi au Centre Wallonie-Bruxelles et dans un espace culturel en Dili. Quentin Noirfalis s'entretient avec Cynthia Bassizi Nabizana.
Quentin Noirfalis, bonjour.
Bonjour.
Ce film se construit sur vraiment toute la vie de Lumumba. Pourquoi, selon vous, il aurait fallu attendre 40 ans avant qu'un commissaire de police belge sorte du silence ?
Je pense qu'en fait, ce commissaire de police avait écrit un livre à la fin des années 70. Donc le commissaire Gérard Soute, qui avec son frère a eu la tâche de dissoudre les corps de Lumumba au Kito Mpolo dans l'acide et de brûler les restes. Ce qui est quand même une manière assez atroce en fait, de se débarrasser de corps des quelques-uns des héros de l'indépendance congolaise. Il avait écrit un livre fin des années 70 qui racontait ça, mais sans les vrais noms, sans les lieux. C'était un assassinat dans la brousse. Et personne n'a fait attention à ce livre en Belgique à l'époque. Il faut dire qu'à l'époque, en Belgique, on ne parlait pas beaucoup de ça. Et les questions même décoloniales n'étaient pas du tout abordées. Et il a fallu en fait, le travail d'un sociologue et historien belge qui s'appelle Ludo de Witt, qui lui, à partir du milieu des années 90, a commencé à enquêter dans les archives pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était réellement de cet assassinat, qui étaient les coupables. Parce que la version officielle à l'époque, c'était que des officiels katangais avaient liquidé Lumumba au Kito Mpolo. Mais lui s'est rendu compte qu'il y avait une autre histoire où les Belges étaient lourdement impliqués dans la logistique de cet assassinat, étaient potentiellement au courant puisque conseillers du gouvernement séparatiste katangais, que Mobutu était impliqué aussi. Et donc il est allé dans les archives de l'État et il est allé rencontrer en fait ce monsieur Soute et aussi toutes les autres personnes en fait qui étaient, la plupart sont décédées et qui étaient liées à ça en Belgique. Et alors il y a eu le livre et très vite après il y a eu un premier documentaire qui a été fait par la télévision belge flamande qui allait voir ces dernières personnes. Et donc ce qu'on a repris, c'est cet archive très célèbre. Je pense qu'à un certain moment, il y a eu un faisceau d'événements qui ont fait quand même que malgré tout, les procureurs fédéraux, que ce soit le roi de Belgique, que ce soit le gouvernement, se sont dit, il est temps quand même d'accompagner cette demande de la famille, d'accompagner aussi cette demande du gouvernement congolais. Et je crois que les astres se sont un peu alignés. La dépouille a été rapatriée, donc il y a la possibilité de faire mémoire, et pour la famille et pour le peuple congolais. Mais la question de la vérité judiciaire qui est attendue, elle reste encore totalement ouverte à mes yeux.
Des films sur Lumumba, il y en a beaucoup, il y en a eu énormément. Alors, qu'est-ce qui rend votre film si singulier ?
En fait, il mêle beaucoup d'archives qui n'ont jamais été mises ensemble, qui n'ont jamais été montées ensemble. On a aussi un peu exhumé une archive de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, de propagande coloniale, qui montre un petit peu, par l'image, ce discours paternaliste des Blancs et très profiteur au niveau économique de la colonie, que Lumumba décriait très très tôt. Et aussi, l'originalité, c'est qu'on prend une forme de recul par rapport à ce qui reste de Lumumba. Et on va demander la parole aux gens de la rue qui sont autour de l'échangeur de Limété, autour de ces événements. Il y a un gars qui a été applaudi en projection à Kisangani parce qu'il dit simplement « Mais c'est très bien, on a rapatrié Lumumba, bravo à tous ceux qui ont fait ça. Maintenant, un héros national a été rapatrié, concentrez-nous sur les enjeux d'avenir du pays. » Et finalement, c'est ça que Lumumba raconte un petit peu en fait, depuis sa tombe en miroir. C'est que les choses qu'il disait à l'époque reste vrai aujourd'hui par rapport à la fois à la situation du Congo, mais je pense de beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire la quête d'une justice sociale, la quête d'une égalité. Même sur la question des femmes, ça reste quand même relativement intéressant puisqu'il s'adresse à ses frères et ses sœurs dans son discours. Ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin du film, on retourne en Belgique et on voit ce qui est fait au niveau de l'enseignement, de Lumumba dans les écoles. Mm-hmm. Et on est vraiment au balbutiement.
Justement, vous avez ce regard croisé là entre les deux sociétés, hein, congolaises et belges. Aujourd'hui, comment est-ce que Lumumba est perçu dans la société belge?
Bah, c'est assez compliqué parce que je pense qu'il y a plusieurs couches. On a une génération vieillissante qui, à mon avis, à la fois le connaissait très très mal et on avait peut-être entendu parler par des parents, anciens colons, etc. Et parfois l'image n'était pas très très bonne de Lumumba. Et puis après, maintenant, arrive une nouvelle génération qui, je pense, est très éloignée de l'histoire coloniale. Ne la connaît pas parce qu'elle n'est pas enseignée en Belgique à l'école. Je trouve que c'est une grande faille à la fois du cursus historique, mais même du cursus dans l'ensemble. Donc voilà, je pense que la perception de Lumumba en Belgique chez les jeunes est quasiment inexistante parce que beaucoup ne savent pas qui c'est. Donc ça montre qu'en fait, cette mémoire, elle est tout autant à bâtir en Belgique qu'au Congo.
Bonne continuation.
Merci beaucoup.
Notre invité, Quentin Noirfalis, l'un des réalisateurs du film Patrice Lumumba, Le Retour de Nero, s'entretenait avec Cynthia Bassizi Nabizana. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Martin Sebou-Djangwe et coordonné par Élisée Tikota. La mise en onde a été assurée par Dieudonné Nyangassa. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.